Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le mondial de football au Qatar, le Maroc a réalisé un exploit face à la Belgique, une victoire 2-0 cet après-midi. Les enfants, premières victimes de la famine en Afghanistan, le pays où la moitié de la population est en situation d'insécurité alimentaire aiguë, une annonce du Programme alimentaire mondial. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes, vendredi dernier, regarde votre journal sur la situation des femmes en Afghanistan, mais aussi en Iran, avec Gisou Jahangiri, vice-présidente de la Fédération internationale des droits humains. Le Maroc est devenu le premier exportateur de véhicules particuliers vers l'Europe, une annonce du ministre marocain de l'Industrie et du Commerce. La reprise épidémique du Covid en France, le président de la Fédération hospitalière de France et maire de Reims, Arnaud Robinet, appelle le gouvernement à autoriser les maires à instaurer le port du masque, surtout dans les transports en commun et le plus tôt possible. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce week-end était Catherine Goliot pour Les Maîtres du Bonheur aux éditions du Cerf, une anthologie qui nous fait découvrir un certain nombre de philosophes, notamment Montaigne, extrait dans votre journal. Le mondial de football au Qatar et cette victoire du Maroc cet après-midi, cet exploit des Lions de l'Atlas, victoire 2-0, un premier but signé Abdelhamid Sabiri à la 73e minute, puis 20 minutes plus tard, un second marqué par Zakaria Abouklal. Plus tôt cet après-midi, le Costa Rica a gagné 1-0 face au Japon. La France l'a emporté 2-1 hier face au Danemark. Elle est ainsi le premier pays qualifié pour les quarts de finale avec 6 points en 2 matchs dans le groupe D. Les Bleus qui joueront mercredi face à la Tunisie. 4 jours après un nul 0 partout face au Danemark, les Tunisiens ont perdu hier face à l'Australie 1-0. La moitié de la population afghane est en situation d'insécurité alimentaire. Un cri d'alarme du Programme alimentaire mondial. L'agence onusienne estime à 19,9 millions le nombre de personnes en Afghanistan en situation d'insécurité alimentaire aiguë selon les projections préliminaires pour la période qui va de ce mois-ci à mars prochain. L'Afghanistan, où au moins 3,9 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë, le Programme alimentaire mondial qui a besoin d'urgence de 1,46 milliards de dollars pour poursuivre ses opérations jusqu'en mai prochain, avec des risques de grave pénurie dès le mois de janvier, faute de financement. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes, vendredi dernier, regard sur la situation des femmes en Afghanistan. Leurs droits ne cessent de régresser depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. Entretien avec Gisou Jahangiri, vice-présidente de la Fédération internationale des droits humains. Elle évoquera aussi au cours de cet entretien le soulèvement populaire en Iran après la mort de Mahsa Amini, après son arrestation pour un voile jugé mal porté. Gisou Jahangiri.
Quand je vois des cas extrêmes qui frôlent une forme d'apartheid sexuel en Afghanistan, je suis bouche bée. Parce que malgré tout l'effort mondial qui a été fait à travers les lois, à travers la conscientisation de l'opinion publique, à travers le travail quotidien des associations des femmes, des défenseuses et des défenseurs des droits humains, etc. Je reste très choquée par le fait qu'en fait le monde peut tolérer un exemple comme l'Afghanistan où depuis un an, petit à petit, les femmes ont quasiment plus de droits. Même, par exemple, j'ai lu, outre le fait que les filles et les femmes sont exclues de l'éducation, l'accès à l'éducation, à beaucoup de métiers, à une vie publique, sociale, normale et économique. J'ai vu par exemple que les femmes désormais n'ont pas le droit d'acheter par exemple des cartes de téléphone. C'est-à-dire petit à petit, elles vont revenir à l'état dans lequel elles étaient dans le précédent expérience avec les talibans. Ça, c'est quelque chose qui me choque. Et visiblement, la question du traitement des femmes et l'inégalité et la violence faite aux femmes ne constituent pas une ligne rouge dans la politique mondiale. Ça, c'est un aspect de la chose qui me préoccupe beaucoup.
Certaines de ces femmes qui tentent de faire entendre leur voix avec une manifestation brève la semaine dernière à Kaboul, elles ont le courage de faire part de leurs conditions.
Absolument, elles manifestent dans cet espoir parce que elles pensent que le monde les regarde aussi. Les manifestations, ce n'est pas tant pour faire changer la politique des talibans. Or, leur politique repose sur cette ségrégation. Ils ne peuvent pas changer de politique. C'est leur vision, leur façon de gérer qui fait que des femmes doivent, par définition, comme les minorités aussi, être exclues du sphère publique. Je pense que les femmes afghanes, courageuses, comme vous dites, et depuis un an, on a eu une série de manifestations, des femmes ont été arrêtées, il y a des femmes qui ont disparu, espèrent que leur voix serait entendue par le monde. Je ne sais pas si ça va se traduire par un effort international pour les entendre et pour ne pas, par exemple, reconnaître les talibans comme le gouvernement officiel de ce pays, parce que cet apartheid est impossible à regarder, à vivre. De l'autre côté, quand je regarde le courage des jeunes femmes, des filles, des femmes d'Iran, qui, après 44 ans d'un régime qui a été, toute la répression politique, a instauré tout un système de ségrégation à l'encontre des femmes, je les trouve admiratives et courageuses, et j'espère que leur voix va être entendue et qu'on arriverait à un Iran démocratique. Ce qui a été étonnant, je pense, depuis plusieurs mois, c'était l'accompagnement, la solidarité des hommes aussi en Iran. Donc, si vous voulez, c'est des revendications très modernes. N'oublions pas que 75% de la population iranienne vit en ville, que les filles et les jeunes femmes continuent à constituer 65% dans tous les domaines à l'université. Les étudiants sont des étudiantes, la majorité sont des femmes. Et donc, elles ont des revendications absolument modernes concernant leur liberté et puis leurs droits démocratiques, économiques, sociaux, politiques et culturels.
Ces manifestations qui sont violemment réprimées, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé jeudi dernier d'ouvrir une enquête internationale pour rassembler des preuves des violations et éventuellement poursuivre les responsables. Vous êtes satisfaite de cette décision ?
Absolument, je pense que c'est nécessaire, dans le sens où déjà la première revendication était la mort de Mahsa, alors qu'elle a été arrêtée parce qu'elle avait mal porté son voile. Mais aussi, évidemment, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'arrestations, malheureusement quelques centaines de morts aussi, y compris des enfants. Donc il faudrait que ça s'arrête, évidemment. Mais alors, comment est-ce que la société iranienne va pouvoir négocier avec le régime en place? Est-ce que ça va devenir une révolution, on va dire, plus nationale, sachant que dans différentes régions d'Iran, les mêmes revendications sont chantées, scantées dans les rues Donc, je ne sais pas ce que l'avenir va nous réserver, mais en tout cas, ça, c'est un exemple justement d'un mouvement des femmes. Si vous voulez, moi, en tant qu'Iranienne, le fait que les femmes iraniennes soient revendicatives et fortes ne m'impressionne pas, dans le sens où je sais que des femmes iraniennes, comme d'autres femmes ailleurs, sont aussi fortes. Ce sont des citoyennes avec des demandes très claires. Mais en tout cas, elles ont pris un peu le leadership de ce mouvement social qui, cette fois-ci, se distingue des autres mouvements où c'est vraiment sans intermédiaire le peuple qui part.
Vous avez évoqué au début de cet entretien le sort des femmes afghanes. Il existe d'ailleurs une solidarité aujourd'hui entre les femmes afghanes et les femmes iraniennes. Et cela s'est traduit lors de rassemblements?
Oui, ça s'est traduit à la fois en Afghanistan, un peu en Iran même auparavant, mais aussi dans les diasporas des deux pays. Il y a un dialogue. Je pense que les femmes afghanes sont un peu déçues, en tout cas se sentent très isolées quand ils voient que partout dans le monde, il y a des manifestations en faveur de la liberté en Iran, que les artistes se sont aussi mobilisés. Elles auraient bien voulu la même réaction internationale envers leur propre sort.
La mobilisation internationale n'est pas suffisamment importante, c'est vraiment le message que vous entendez délivrer.
Oui, mais aussi, regardez, il y a des pays comme la France et quelques d'autres pays en Europe du Nord qui considèrent qu'ils mènent une politique étrangère féministe. Bah, à nous de regarder, continuer à observer pour voir comment ça se décline réellement. Parce que quand nous regardons que, par exemple, la France continue à être un vendeur d'armes à l'Arabie Saoudite où la situation des femmes est telle que nous connaissons, les États-Unis ont accepté de faire un deal avec les talibans pour grosso modo leur donner le pouvoir. Voilà, donc à nous de voir, la solidarité entre les citoyens du monde est réelle, on le voit, on le constate, mais est-ce que ça se traduit par la politique des pays puissants qui sont aussi présents dans beaucoup de régions du monde, j'en suis pas certaine.
Guissou Jehangiri, vice-présidente de la Fédération internationale des droits humains. Le Maroc est devenu le premier exportateur de véhicules particuliers vers l'Europe. Une annonce du ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezour, souligne que le Maroc dépasse notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Le président de la Fédération hospitalière de France et maire de Reims appelle le gouvernement à autoriser les maires à instaurer le port du masque, surtout dans les transports en commun, le plus tôt possible. Un appel face à la reprise épidémique du Covid. Arnaud Robinet se dit préoccupé par le contexte actuel, alors que l'épidémie de bronchiolite n'a pas encore atteint son pic et que la grippe, qui arrive plus tôt que prévu, avec, souligne-t-il, un virus très virulent. Il appelle la population à se faire vacciner. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce week-end était Catherine Goliot pour Les Maîtres du Bonheur aux éditions du Cerf, une anthologie qui nous fait découvrir un certain nombre de philosophes, notamment Montaigne, extrait de cette émission.
Il y a Le Secret de Montaigne, qui est quand même un auteur que je recommande à tous les lecteurs, parce que c'est une merveille, une pure merveille. Il est gouléon, c'est-à-dire qu'il vous donne la joie. Déjà, de le lire, c'est une joie. Mais ce qui traverse toute l'œuvre de Montaigne, c'est l'amour de la vie. C'est un homme qui, personnellement, je trouve absolument exceptionnel parce qu'il a vécu pendant les guerres de religion, il a été confronté à la maladie, à l'épidémie, il a pris énormément de responsabilités puisqu'il a été le maire de Bordeaux, mais il a aussi été un négociateur pour le roi auprès des protestants et des catholiques, ça s'est d'ailleurs pas très bien passé. C'était un homme extrêmement cultivé qui avait beaucoup lu et c'est quelqu'un qui sait se composer une vie où il y a à la fois l'amour de l'étude, une grande empathie avec les autres, l'amour du corps, une grande liberté. Et le texte que j'ai choisi, c'est un texte donc qu'il écrit à la fin de sa vie, où il est très malade. Il est très malade, il souffre beaucoup. Il dit, mais malgré tout ça, j'aime la vie. Et je crois que c'est l'une des leçons plus belles que nous aient laissées ces sages ou ces penseurs ou ces poètes, ces artistes qui sont présents dans ce livre. On peut tout imaginer pour le bonheur, mais il faut quand même avoir en tête que la vie, elle est là. Alors évidemment, il y a le vieil adage, mais parfois il faut respecter les adages qui est « la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Montaigne nous montre que cette vie, il faut la sentir à toutes les minutes, il faut l'apprécier. Parfois, il faut effectivement la supporter. Mais le bonheur, c'est peut-être cette leçon-là, c'est-à-dire… être capable de ressentir le plaisir d'être dans la nature, dans une forêt, le plaisir de la marche, le plaisir de monter à cheval, le plaisir d'une cavalcade, le plaisir de discuter avec des amis, le plaisir d'aimer, le plaisir d'être avec des amis. Bon, vous connaissez tous ce texte magnifique sur la Boétie, où il dit « mais pourquoi est-ce que je l'aimais, lui ?» Parce que c'était lui et parce que c'était moi. Mais c'est surtout parce qu'il avait entre eux une capacité de communication qu'ils ont travaillé. Ça n'a pas été donné. Ils ont travaillé cette capacité de communication, d'échange, d'amitié. Mais c'est ça aussi qui faisait son bonheur. Mais malgré ça, malgré la perte de cet ami, malgré tous les morts qu'il a pu voir, malgré toutes les souffrances qu'il a endurées, il a dit « j'aime la vie ». Et c'est en cela que je trouve qu'il est absolument fondamental.
Catherine Goliot, il y a peu de femmes dans votre ouvrage, puisque les femmes sont de toute façon peu nombreuses parmi les philosophes avant le 19e et le 20e siècle, mais vous nous donnez à lire un texte d'Émilie du Châtelet, qui était non seulement philosophe, mais aussi scientifique. On sait que Voltaire, son compagnon, l'admirait. La définition du bonheur pour elle, c'était l'amour.
Pour Émilie du Châtelet, c'est plus que l'amour. Le bonheur, c'est la passion. C'est ce sentiment que vous êtes vivant. Et pour elle, ce sentiment d'être vivante, elle le ressentait évidemment dans l'étude, et elle le dit dans ce texte. Elle aime l'étude, elle aime la connaissance, elle a une vraie libido de la connaissance et de la découverte. Mais la passion, sentir qu'elle aime, plus que d'être aimée, c'est sentir qu'elle aime. C'est absolument extraordinaire, et c'est le piment de la vie, et c'est ce qu'elle recommande. Et elle dit, ben, en gros, oui, c'est formidable d'être très heureux, que tout aille bien, l'homme qui vous aime ou que vous aimez vous aime, bref, tout va bien, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie? Qu'est-ce qu'on s'ennuie, en fait? Ça n'a pas de piment. Et alors, ce texte est passionnant à plusieurs titres. Le premier d'abord, c'est qu'elle va à l'encontre d'une tradition de la définition du bonheur venue des stoïciens et notamment de Cicéron, qui est aussi présent dans ce livre et qui parle justement du bonheur comme « si vous voulez être heureux, rejetez les passions, protégez-vous, protégez vos sentiments, parce que vous allez vous exposer à la souffrance ». Et ça, c'est une tradition très très forte dans la manière de concevoir le bonheur. Elle, cette femme, elle dit « non, non, c'est exactement le contraire, exposez-vous, acceptez d'avoir mal, mais le ressenti que vous allez avoir est tellement extraordinaire, vous serez tellement vivant que c'est comme ça que vous allez être heureux. Acceptez la tempête, recherchez la tempête ». Et donc ça, c'est quand même en soi extraordinaire. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'elle ose le dire, comme vous l'avez très bien dit, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont la possibilité d'écrire, de s'exprimer jusqu'à la fin du 18e, 19e siècle. Elle, c'est une intellectuelle d'un niveau exceptionnel. Elle est celle qui a introduit Newton en France. Elle est celle qui l'a traduit. Donc Voltaire avait travaillé avec elle, mais c'est elle qui était capable de lire, de comprendre les mathématiques, et donc qui a fait cet énorme travail. Elle ose donc le dire, donc elle prend un risque énorme, de même qu'elle avait pris un risque en s'affichant avec Voltaire alors qu'elle était mariée. Et donc, à ce titre-là, je trouve que c'est une des premières féministes sans l'être, c'est-à-dire qu'elle ne se revendique pas du tout comme féministe, mais elle ose vivre sa passion et vivre sa passion au grand jour et donc s'affirmer en tant que femme dans le mode littéraire. Et ça, c'est exceptionnel. C'est absolument exceptionnel. Et en cela, c'est un être absolument remarquable.
Catherine Goliot, invitée de la bibliothèque de Radio Orient pour Les Maîtres du Bonheur aux éditions du Cerf, émission présentée par Loïc Barrière, émission disponible sur votre site internet radioorient.com. Fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.